Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de ce café des sports de Radio Foot International sur RFI. Aujourd'hui, dans les débats du jour de cette émission, adios, Issou, la presse espagnole, française, italienne, plus généralement européenne, et même au-delà de cette Europe, se fait l'écho de la décision inattendue et irrévocable de Zidane de quitter le Real Madrid. Nous y reviendrons, surtout sur les réactions, vos réactions, messieurs qui êtes ici invités dans ce café des sports, et aussi les conséquences pour la Casablanca 24 heures après l'annonce de ce départ surprise. Autre champion à l'honneur de notre zing, Didier Deschamps, Dédé, dans la tête de qui s'est infiltré un de nos amis de Radio Foot, Jean-Philippe Bouchard. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors ce livre est sous-titré « Dans la tête de Didier Deschamps, tous ses secrets d'entraîneur ». Alors on compte sur vous pour nous livrer quelques-uns des secrets du sélectionneur de l'équipe de France. La fera-t-il d'ailleurs gagner en Russie, le dites-vous dans ce livre ? C'est le bon moment, en tout cas au bout de 6 ans avec les Bleus. Le premier match test du Sénégal à 18 jours de leur entrée dans la compétition, les Lions de la Teranga se frottaient hier soir aux Luxembourgeois, sans plus de chance que les Français récemment, 0-0, mais des enseignements, nous assure Aliou Cissé. Enfin, nous reviendrons avec notre confrère Régis Janté sur le football russe au temps de Lénine et Staline. Vous verrez, c'est passionnant. Alors, dans ce studio, ils sont là, ils sont bien là, nos invités, nos duettistes du jour, Rémi Ngono et Xavier Barré, bonjour.
Bonjour Annie.
Bonjour.
Voilà, ils ont commencé à avoir l'habitude de dire bonjour ensemble. Jean-Philippe Bouchard, je vous l'ai déjà présenté et il est là, donc des éditions Solar. Et puis, Bastien Roch, bonjour Bastien.
Bonjour à tous.
Voilà, vous l'avez entendu sur l'antenne de RFI, stagiaire du service des sports, c'est votre dernier jour, hein. Vous allez pleurer?
Peut-être pas, mais je reviendrai en tout cas avec plaisir.
Radio Foot, le café des sports, les débats sont ouverts.
C'est une surprise et une déception, mais bon, pour lui, je pense que c'est le bon moment de terminer cette grande étape avec tous ses titres pour le Real Madrid.
On ne peut avoir que de l'admiration. On a également beaucoup de respect pour l'homme, pour le joueur qu'il a été.
Il s'en va par la grande porte et je crois qu'il s'en va au meilleur moment. C'est une décision responsable qui lui ressemble. C'est une bonne décision.
Il lui appartient maintenant de décider de la suite pour lui-même, mais je souhaite qu'il puisse jouer un rôle pour le pays parce que je pense que c'est quelqu'un qui inspire notre jeunesse.
C'est son choix et il faut le respecter et saluer le travail effectué.
Du président Macron au capitaine de l'équipe de France et aux supporters les plus admiratifs, les plus anonymes aussi, Zizou a monopolisé depuis hier les débats, les discussions parfois très animées. Son choix de partir au plus haut, au meilleur moment, semble avoir épaté la presse d'Espagne et de France. As, l'un des deux quotidiens sportifs madrilènes, lui dit « hasta siempre y gracias por todo », c'est-à-dire « à toujours hein. ». On ne le dit pas trop en français, mais c'est « tu peux revenir et merci pour tout », alors que Marca lui dit gracias, mais ce merci est avec deux Z évidemment qui veulent dire Zinedine Zidane, en ajoutant Zidane part en laissant en héritage un héritage de légende et un club en état de choc. Le choc, c'est ce que retient la publication de Barcelone, El Mundo Deportivo, le Real Madrid en état de choc. Alors que le journal Sport d'Espagne illustre la photo de deux hommes qui ne regardent plus vraiment dans le même sens, Florentino et Zizou, par ce mot rotos, brisé, hein, relation rompue. En France, l'équipe a choisi un très joli titre, le discours d'un roi. Hier, on avait lu aussi vos réactions sur la page Facebook de l'émission. Pierre Guérin, qui vous lit avec assiduité, avait réparti toutes ses réactions. Il y avait celle de tristesse des internautes, mais qui reconnaissait qu'il avait su partir avant qu'on ne lui demande. Il y a ceux aussi qui s'en réjouissaient. Ils sont peut-être un peu barcelonais. Zidane part parce qu'il n'avait rien prouvé, même un peu méchant. Et puis, il y a aussi les adversaires hein, des joueurs, disons, ces adversaires qui, eux, sont plutôt donc fanatiques du Barça et qui lui souhaitent bon vent. avant les spéculations, bien sûr. Messieurs, comment avez-vous réagi, par exemple, Jean-Philippe Bouchard, quand vous avez entendu cette nouvelle, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez imaginé, vous vous êtes dit, finalement, c'est, il a raison?
Je pense que, de son point de vue, c'est extrêmement habile. C'est-à-dire que il fait l'analyse de son équipe, de son club, mieux que personne, puisque c'est vraiment lui qui la connaît. Et il voit bien, il l'avait dit d'ailleurs, c'est passé assez inaperçu, mais il l'avait dit cet hiver, il avait dit il va falloir reconstruire, l'été prochain il y aura un grand chambardement dans l'équipe et il faudra reconstruire l'équipe. À ce moment-là, le Real était encore en course en championnat, en Ligue des Champions, ça n'avait pas suscité énormément de réactions, sauf qu'il avait, déjà été. Tout le monde voit bien que c'était une équipe encore extrêmement performante, mais qui s'approche d'une fin de cycle. Et évidemment, il faut préparer l'avenir. Et il a estimé qu'il n'était pas forcément la meilleure personne pour
et
ça.
Et il l'a anticipé d'une certaine
et,
façon.
Et voilà. Alors après, est-ce que sa succession a été préparée? C'est pas certain, parce que le temps est très très court là entre le moment où,
oui.
où
il, mais il leur donne le temps.
Ouais, il faut qu'il trouve quelqu'un. Après, tout dépendra du recrutement, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'affairent en coulisses depuis un moment.
Ouais. Xavier.
Oui, clairement, pour lui-même, c'est un départ formidable. Il part sur 3 Ligue des Champions, il part au sommet, et donc il part avec tous les honneurs. Et le meilleur moyen de se faire regretter ensuite. Puisque forcément, dès qu'il y aura des mauvais résultats, on dit « Ah, si Zidane était resté ». Maintenant, moi j'avoue que j'ai été totalement surpris hier quand j'ai appris ça à une réunion d'ailleurs des anciens de l'équipe. On était dans une ambiance sympathique et tout d'un coup on a appris cette nouvelle. Ça nous a forcément surpris parce que j'avais vraiment le sentiment que Zidane s'inscrivait dans la durée au Real Madrid. Il avait été...
Il avait passé un cap.
Exactement. Mmh. Il avait été installé par Florentino Pérez, j'allais dire, sur un contrat de confiance. Ça fait longtemps que Florentino Pérez l'avait dans son...
On va revenir à Florentino Pérez.
Et là, tout d'un coup, qu'il s'en aille, j'ai un peu le sentiment, je vais peut-être surprendre des gens, mais j'ai un peu le sentiment qu'il met en avant d'abord sa carte personnelle, et c'est vrai qu'il a tout pour réussir, plutôt que son attachement au Real Madrid.
Alors Rémi, est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que vous avez versé une larme?
Beaucoup surpris dans la mesure où j'étais peut-être l'une des dernières personnes à être informée. Parce qu'en réalité, j'étais dans une conférence débat, dans une académie de Créteil avec des étudiants. Lorsque subitement, voilà, moi je sors de là aux alentours de 17h30.
Mais votre téléphone ne vous a même pas alerté.
Ah non, mais le téléphone, on ne peut pas être en conférence débat avec le téléphone à peu près comme Xavier Barré,
non,
qui peut être avec l'émission.
On peut le couper.
Qui peut être à l'émission avec le téléphone.
Infos.
Non, on ne peut pas. Donc, moi, j'étais beaucoup surpris, mais cependant, certes, j'ai versé une larme, mais j'étais heureux. Heureux pourquoi? Parce que autant j'ai dit à Xavier Barré que il ne fallait pas rester comme Arsène Wenger. Vous constatez que Arsène Wenger, après avoir fait tout ce temps-là,
Rémi,
il n'a pas été félicité par le chef de l'État ni quoi que ce soit.
C'est dans toutes les disciplines que tout le monde ne trouve pas la bonne sortie.
Ah oui, donc Zidane a su décider au bon moment, savoir partir. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il est parti comme un héros et il restera comme un héros. Parce qu'il faut quand même se dire que c'est le premier entraîneur qui part du Real Madrid de cette façon, c'est-à-dire qu'avant que Zidane ne soit là, 20 entraîneurs avaient été liquidés en 20 ans. Et au temps de Pérez, il y a eu 11 entraîneurs liquidés en 10 ans. Donc, qu'est-ce que Zinedine Zidane s'est dit?
Gentil.
J'ai gagné 3 Ligues des Champions.
Et
quand on regarde d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, vous regardez Mourinho, c'est 2 Ligues des Champions. Vous regardez Guardiola, c'est 2 Ligues des Champions. Vous regardez plein de gens qui sont là depuis, qui sont considérés par certains comme des icônes, y compris moi-même. Mais vous vous rendez quand
et
même compte.
Et Ancelotti la gagne et se fait virer juste après.
Ah ouais,
donc.
Mais Zidane, il a un ratio incroyable. Un trophée tous les 17 matchs, c'est incroyable. C'est le panthéon du ballon rond.
Il n'a pas eu la Coupe du Roi, cependant. Alors, évidemment, maintenant,
la
on va
coupe
s'attacher...
La Coupe du Roi, c'est la Coupe du Village.
vous voulez dire un mot, Bastien, sur cette déflagration? Vous avez vu, en tout cas, le service des sports s'agiter hier.
Ah bah là, c'était de toute façon oui, l'explosion.
L'expérience.
Et ça a chamboulé clairement tous les programmes, même ceux de Radio Foot.
Oui, évidemment. Évidemment. En tout cas, il faut maintenant, eh bien, on va s'attaquer un peu en dehors de l'effet. Hein. Ça fait plus de 24 heures. On va faire un peu comme les dirigeants, déglinguer, parce que eux, ils doivent endiguer l'onde de choc qui a suivi cette annonce. Et d'ailleurs, rien qu'à regarder, hein, je crois qu'on sera tous d'accord, le visage du président du club, parce qu'hier on a beaucoup parlé de Zidane et on a évoqué Florentino Pérez, mais écoutons ce qu'il a dit en réaction aux propos de Zinedine Zidane.
Quand j'ai pris connaissance de cette décision, c'était un grand choc. J'aurais aimé le convaincre, mais je connais son caractère et la seule chose que je puisse faire est de lui transmettre toute mon affection, mon soutien et ma reconnaissance. Je lui ai dit, bien qu'il le sache déjà, que le Real Madrid sera toujours sa maison et sa famille.
Alors, ça sera toujours sa famille et sa maison, mais en tout cas, il est parti. Et évidemment, la grande question à laquelle va devoir répondre Florentino Pérez, c'est qui mettre sur le banc. Alors Rémi, vous, grand admirateur du Real, qui aimeriez-vous voir succéder? On parlera des joueurs ensuite, parce qu'évidemment, l'onde de choc, elle n'est pas que sur le banc, mais là, il y a un trou, et il y aura peut-être des trous dans le vestiaire. Mais est-ce que, qui aimeriez-vous voir succéder à Zinedine Zidane?
Première des choses, je dois d'abord réagir par rapport à la parole très très hypocrite de Pérez, parce qu'il faut quand même se dire que Pérez n'avait pas programmé Zinedine Zidane à prendre la place, et au-delà de ça, il ne l'a pas remercié comme il fallait. C'est-à-dire que
il l'avait pris comme un recours.
Voilà, parce que il avait tout misé sur
Benitez.
Maintenant que Benitez échoue, il prend d'ailleurs le soin tout de suite de vouloir alerter Joachim Löw, qui refuse. Il cherche d'ailleurs même encore Mourinho. D'ailleurs, Mourinho l'avoue que c'est lui qui a viré Pérez, qui ne voulait plus revenir. Et d'ailleurs aussi, sans pour autant oublier qu'il a tenté Jürgen Klopp, qui a aussi refusé. Donc, en dernier recours, il prend Zidane. Et le pire, c'est quoi? C'est que avec Benitez, il paye Benitez 7,5 millions d'euros. Quand Zinedine Zidane arrive sur le banc, il paye Zinedine Zidane à 2,5 millions d'euros. Malgré tout ce que Zidane a pu faire, il n'a pas obtenu d'augmentation des salaires assez considérable. Donc, pour moi, je trouve d'abord que c'est une ingratitude de la part de Pérez.
Oui, non,
aujourd'hui, quand vous me demandez qui est-ce que je souhaite voir actuellement...
Vous, en tant qu'admirateur de ce club.
Bon, de toutes les façons, beaucoup de gens auraient souhaité que ce soit Joachim Löw. Il a refusé. Et aujourd'hui, on parle de Pochettino. Je ne sais pas si c'est ce qu'il vaut réellement. C'est vrai quand même que j'ai vu son style un peu avec... mais c'est
Tottenham.
Pas encore ça. Mais pour l'instant, c'est que Pérez est pratiquement dos au mur, parce que le Real...
Pratiquement, il l'est.
Il l'est, parce que vous savez qu'il a souvent été habitué à virer des entraîneurs, à être toujours celui
qui...
Aujourd'hui, ni les sociaux, ni moi, ni personne, puisque au-delà des 75 000 sociaux membres du Real, il n'a jamais tenu en compte leur aspiration, leur doléance. Il gère comme un autocrate. Oui. Donc, mon avis ne compte même pas.
Bon, vous en avez peut-être un quand même, Jean-Philippe.
En ce moment, le bruit qui court, c'est Pochettino, dont on parle beaucoup.
Alors, Pochettino, par le plus grand des hasards, est en Espagne en ce moment. Il présente un livre à Barcelone. Et il a eu une formule, après avoir dit non, je viens de re-signer à Londres et tout, il a eu une petite formule amusante. Il a dit, il n'est pas impossible de dire non au Real. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne dira pas oui non plus.
Oui, il entretient un peu le suspense. De toute façon, c'est bon pour lui. Après, la tâche ne sera pas facile pour le successeur de Zidane, parce qu'il faut effectivement reconstruire l'équipe. On voit bien qu'il y a un certain nombre de cadres qui sont quand même plutôt en fin de parcours. Sans faire injure à Ronaldo,
on va y venir justement à ces joueurs.
Début, Modric.
Mais justement, un homme peut-être qui saurait organiser une succession. Donc, on voit bien que dans les grands clubs, c'est toujours compliqué.
Il a optimisé, il a utilisé au mieux l'effectif existant mais en faisant aussi le choix de faire l'impasse sur le championnat quand même, très clairement, et en privilégiant une compétition. Or, le Real, avec son statut, est obligé de tout jouer, de tout gagner chaque année. C'est l'objectif.
Faut pas oublier que Zidane a été extrêmement critiqué cet hiver.
Mais oui, mais c'est sans doute ça qui l'a conduit aussi à prendre du recul.
Exactement. Et donc, il a senti que il a pas senti tout le soutien qu'il pouvait espérer.
Qui installeriez-vous si vous aviez ce pouvoir?
Alors Pochettino, effectivement, c'est un bon choix. Seulement, il y a d'autres clubs qui ont essayé de le débaucher, qui étaient intéressés, notamment le Paris Saint-Germain. Et lui, il reste à Tottenham parce qu'il y a un vrai projet à Tottenham. Ils vont arriver dans un nouveau stade la saison prochaine. Ils ont des moyens financiers importants. Donc là, il y a une source, une solution interne avec Guti, ancien joueur du club, et finalement
qui s'est placé sur les rangs.
Voilà,
qui est à la Castilla lui aussi, c'est-à-dire là où était Zidane auparavant, Zidane avec les jeunes.
Moi, je vu la politique qui a été menée par le Real ces derniers temps, enfin en tout cas par Zizou, c'est-à-dire de faire monter des jeunes plutôt que d'aller recruter des joueurs à l'étranger et garder les stars, c'est probablement la solution de transition qui me paraît la meilleure.
Ils ont du temps de toute façon, non? Parce qu'il y a cette période Coupe du Monde finalement où ça peut leur donner du temps pour chercher.
Bah parce qu'on sait qu'aussi, on se souvient Cristiano Ronaldo à la fin de la finale, la dernière finale de Ligue des Champions a annoncé qu'il allait annoncer quelque chose. On attend toujours, mais on sait qu'il y a d'autres clubs.
Dans six jours, il a dit.
Voilà. Donc on sait qu'il y a notamment l'Inter de Milan qui est prêt à le faire venir.
On va en parler des joueurs. Je vous demande sur le banc. Pour l'instant, je m'en tenais au banc qui, durant la Coupe du Monde, ils ont le temps aussi de contacter d'autres entraîneurs.
Eh ben, ils ont le temps. Et de toute façon, il va y avoir des entraîneurs qui seront libres après la Coupe du Monde. Mais le Real ne peut pas attendre la fin de la Coupe du Monde pour recruter un sélectionneur. Donc, il va falloir trouver une solution actuellement. Il y a un nom qui revient pas curieusement, alors que c'est une solution pratique, c'est Ancelotti.
Mais Ancelotti, il doit se diriger vers Naples, si je ne m'abuse.
Oui. Napoli, je crois quand même que...
Tout va dépendre peut-être de l'effectif, sans doute, Rémi, non?
Je ne vois pas Ancelotti revenir. Pourquoi? Parce que Ancelotti va faire la même erreur que Capello. Capello est tombé dans cette erreur, c'est-à-dire
que... Jupenkes l'a fait, par exemple, Rémi.
Ah oui, mais ils connaissent comment ça s'est terminé. C'est-à-dire que quand Capello a eu une certaine période, le Real était dos au mur, donc il est parti en 97, en 2007, il revient. Qu'est-ce que ça a été? Un échec total.
Oui, mais Jupenkes qui revient au Bayern, c'est pas vraiment un échec pendant un an.
Ah oui, mais avec.
C'est pas triplé, mais.
Oui, mais ça, c'est le Bayern.
Alors, Rémi.
Il savait très bien qu'il venait faire un petit job pour repartir en retraite. C'était juste une roue de secours. Mais je dis que la seule solution qui tienne actuellement, bien évidemment, comme le Financial Times le dit, c'est la solution pour Pochettino. C'est-à-dire que parce que les indemnités pour le recruter, c'est 48 millions et demi d'euros. Actuellement, je peux vous dire que le Real, en dehors des Zinedine Zidane, même les anciens, la Valois et consorts et tout, qui ont été des légendes, ne sont jamais venus au banc sans avoir une expérience dans un autre club ou avoir été sur un banc pendant au moins 10 ans. Zinedine Zidane n'était là qu'une solution intermédiaire. On ne peut pas reprendre les
outils. Sans doute.
Donc, aujourd'hui, tout ce qu'il va faire, c'est tenter tout pour le tout pour enlever les 5 ans de Pochettino qu'il venait de signer mais ces 5 ans-là lui donnent aussi une autre option de pouvoir quitter le club. C'est ce qui est intéressant dans la solution pour Pochettino. Il a une option dans son contrat de pouvoir quitter le club.
Rémi, alors on se demandait aussi l'onde de choc dans le vestiaire. Est-ce que ça va donner l'envie à certains joueurs de partir dans le sillage de Zidane? Et je pense évidemment à Cristiano Ronaldo qui lui aussi, comme Zinedine Zidane, a gagné tellement de choses avec cette équipe que le soir quand il a cette phrase, on se dit « Ah bah oui, de toute façon, il a déjà tout gagné avec eux ». Est-ce que vous pensez que lui, il va partir parce que Zidane n'est plus là?
Je crois que...
Il est déjà parti?
Je crois qu'il est presque parti.
Vous avez vu qu'il n'est pas en photo sur le...
Non. Pour l'histoire de la photo, c'est parce que Real a un contrat avec Adidas et tout ça, comprend. Et toujours,
il ne peut pas.
Mais le plus intéressant dans l'affaire, c'est que lorsque Zinedine Zidane part, tous les joueurs, Ramos, en passant par Cristiano Ronaldo et même les Achraf et ceux qui sont dans la réserve, envoient des messages pour soutenir leur coach. Un seul ne l'a pas fait, c'est Gareth Bale. Et Gareth Bale est bel et bien, contrairement à ce qu'on dit, à l'origine du départ de Zinedine Zidane. Pourquoi? Parce que après la Ligue des Champions, Gareth Bale est celui qui déclare qu'il aurait souhaité beaucoup jouer et qu'il faudrait qu'il discute avec les dirigeants du club. Or, Perez avait construit son nouveau Real sur le projet de Gareth Bale en cachant d'ailleurs ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire que le contrat qui était de 107 millions, il ne l'avait pas dit, il avait dit à Lévy, cachons cela, et de ce quoi il avait offert à Gareth Bale 13 millions
cas,
et demi de salaire.
Il restera lui.
Donc, Gareth Bale restera. Or, si Gareth Bale reste, parce que Perez a voulu imposer à Zinedine Zidane de faire de Gareth Bale le titulaire et de le mettre au milieu du terrain, Zinedine Zidane l'a refusé. C'est ce que Benitez, lui, l'avait fait, parce qu'il voulait obéir aux ordres de Perez. Donc, à une certaine période, aussi Zinedine Zidane a refusé autre chose. Perez était déjà prêt à vendre Benzema cet été. Zinedine Zidane s'est opposé. Et Cristiano Ronaldo s'opposait à Perez depuis, c'est-à-dire que la vente de Di Maria,
la
vente d'Ozil, et du coup, qu'est-ce que Ronaldo qui ne regarde même plus Perez en le salaire.
Conclusion, Cristiano reste ou s'en va? C'est ça la question.
Pour moi, Cristiano Ronaldo s'en va. S'il reste, ce sera par force parce qu'il y a un contrat qui le lie. Mais il y a un proverbe africain qui dit... Quand l'âne ne veut plus boire, on ne peut jamais le contraindre.
je pense que vraiment, tous les astres sont alignés pour qu'il puisse partir. Parce que il peut prendre le prétexte. Du fait que l'entraîneur avec lequel il a le plus gagné s'en va, avec lequel il a réussi à trouver une relation extrêmement forte. Voilà, Zidane s'en va, Ronaldo d'une certaine façon est libéré de son obligation morale de rester au Real où il a passé les plus belles années de footballeur. Mm-hmm. Là, on sait bien
où il a gagné 4 Ligues des Champions.
Il va probablement faire sa dernière Coupe du Monde. Voilà, c'est quand même donc il peut se donner un nouveau.
Il joue jusqu'à 40 ans, vous n'avez pas oublié.
À son poste, c'est un petit peu plus compliqué.
Roger Milla avait joué.
Peut-être qu'il jouera dans les buts. Oui, mais sa dernière Coupe du Monde, elle est pas belle à voir.
Roger Milla avait été le meilleur.
Ni trop l'euro.
Oui, avec un Cameroun très très mauvais.
Non, il n'était pas très mauvais. Le Cameroun était arrivé quand même en quart. Comment est-ce qu'on peut dire
en 1994.
C'est une opportunité pour lui de partir dignement et de dire il y a un nouveau challenge, où il aura sans doute un rôle différent.
Alors Xavier, vous voyez d'autres joueurs peut-être partir, je sais pas, Benzema, Navas aussi tellement critiqué.
C'est vrai que pour une fois Rémy Ngono dit des choses assez sensées, donc je vais pas paraphraser ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai que on sait que Cristiano Ronaldo était très attaché à Zidane, qui a su le relancer. Benzema, très attaché aussi à Zidane. Et à l'évidence, Florentino Pérez, lui, qui construit un club qui veut une notoriété mondiale, il a déjà envisagé la suite, c'est-à-dire avec d'autres joueurs, notamment Robert Lewandowski, l'avançant polonais, qui est en relation, même si officiellement on a dit que c'était pas fait, mais qui est en relation très avancée avec le Real. Donc, il y a un renouvellement des cadres qui se précise. À l'évidence, Zidane n'était pas d'accord pour ce renouvellement-là. Il voulait continuer encore un peu avec certains de ses joueurs, avec qui il a des relations privilégiées, et c'est ce qui explique cette rupture. Donc il va y avoir forcément des grands changements.
Bastien, vous voyez certains de ces joueurs partir, Benzema?
Benzema, je sais pas, mais simplement, je voulais revenir sur le cas de Gareth Bale. Ça me paraissait peut-être un peu exagéré. Il ne donnait tant de pouvoir que ça, de pouvoir pousser Zidane vers la sortie. Je verrais peut-être plus, à la limite, Gareth Bale rester parce que Zidane part, que Zidane partir parce que Gareth Bale reste.
Oui, c'est vrai que c'est... En tout cas, on a vu que Zidane, n'avait pas hésité à le faire rentrer sur le terrain et à très bien l'utiliser.
J'ajoute juste une petite remarque. Vous savez très bien que à l'été 2016, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Perez décide de changer le médecin. Le médecin, il vient avec qui? Celui que tout le monde détestait, c'est-à-dire que Jesus Olmo, qui ne parlait qu'à un seul joueur, Gareth Bale. Donc aujourd'hui, si vous me dites que Gareth Bale, qui avait le plus gros salaire, le plus gros salaire du Real, et qui aujourd'hui n'a rien dit, vous me dites, c'est justement parce que à une certaine période, d'ailleurs, la discussion entre Zinedine Zidane et Perez a duré 2 heures de temps, et Zinedine Zidane, Perez voulait convaincre de positionner l'équipe comme il voulait. Zinedine Zidane a été catégorique parce que pour lui. La réalité, c'est que pour lui, un président ne devait pas imposer des joueurs sur le terrain et lui dire comment il devrait les utiliser. Bien c'est sûr. Ça le départ de Zinedine Zidane. Quand les gens me disent aujourd'hui que non, c'est que en réalité, il avait vu ceci, il avait vu cela. Zinedine Zidane, même dans les projets du Real, il était en train de miser sur des gens comme Eriksen et consorts qu'il voulait bien faire recruter. Mais à la dernière seconde, quand il s'est rendu compte que, bon, voilà, il y a marionnettiste et je suis marionnette et qu'on est en train de vouloir.
Ah oui, mais c'est pas comme, le premier entraîneur qui part dans ces conditions. Alors, l'onde de choc, évidemment, elle s'est propagée un peu partout et elle est arrivée sur la Côte d'Azur. Elle s'est même invitée dans la conférence de presse de son copain, son camarade de jeu, champion du monde et d'Europe avec lui, son capitaine aussi, Zinedine Zidane, et c'est évidemment Didier Deschamps.
Il a cette liberté-là, après certains la prennent, d'autres la prennent pas, certains sont obligés de partir aussi. J'ai pas tous les éléments, mais je peux comprendre avec les moments qu'il a connus et la réussite qu'il a connue. Voilà, après j'ai pas envie de... Zizou, on se connaît suffisamment bien, on a un respect mutuel, on a eu l'occasion de discuter, d'échanger. Je peux imaginer ce qui l'a amené à prendre cette décision. De toute façon, Zizou qui sort par une porte, elle est forcément grande, parce qu'elle a toujours été grande. Donc je ne verrais pas pourquoi ça changerait maintenant qu'il est devenu entraîneur et qu'il a un parcours qui est hors norme.
Xavier Barré, y a-t-il à présent une pression inattendue, une pression de plus sur les épaules de Didier Deschamps à la veille du début de cette Coupe du Monde ?
Moi, je crois pas, parce que c'est pas parce que Zidane a dit j'arrête au Real que Deschamps n'a pas un contrat qui va jusqu'à 2020.
Non, mais vous savez maintenant, que c'est le fantasme et le fantôme qui rôde autour de cette équipe de France depuis longtemps, surtout depuis qu'il a décidé d'être entraîneur, même quand il était qu'à la Castilla. Et c'est le timing finalement. Il y a des sondages qui sont faits maintenant dans rue pour demander aux gens s'ils veulent que Zidane soit un jour sélectionneur.
Oui, mais on a eu des sondages à une époque. On disait est-ce que Domenech doit partir. Tout le monde disait que Domenech doit partir, puis il est resté. Donc voilà. Donc c'est pas les sondages qui décident, c'est Noël Le Graët et les gens qui sont autour de lui. Donc Noël Le Graët a une totale confiance en Didier Deschamps et il a prolongé son contrat. Maintenant, c'est vrai que si l'équipe de France se vautre à la Coupe du Monde, la situation de Deschamps sera plus compliquée à préserver. Le fait que Zidane soit libre, effectivement, ça apportera une solution de rechange. Maintenant, moi je rappelle juste une chose, c'est que quand Deschamps est arrivé, il n'était pas libre, il était sous contrat avec l'OM. Et c'est Noël Le Graët, qui ne voulait plus de Laurent Blanc, qui a fait en sorte que Deschamps puisse venir. Donc, est-ce que c'est l'opinion publique qui va prendre la décision ? C'est d'abord les résultats de l'équipe de France qui guideront l'avenir.
La Coupe du Monde va effectivement donner le tempo d'une éventuelle succession.
Évidemment.
Mais je pense que dans la tête de Zidane, si j'ose dire, je pense qu'il a tout intérêt à ce que Didier Deschamps continue de travailler, de former ce groupe équipe de France encore pendant 2 ans, sauf s'il gagne la Coupe du Monde. Mais il a tout intérêt à ce que Deschamps mette sa patte sur l'équipe encore pour arriver derrière avec un groupe encore plus fort. Ces deux-là, ils se connaissent suffisamment. Ça fait 25 ans qu'ils se connaissent.
Oui.
Qui peut penser qu'ils ne se parlent pas régulièrement ? Évidemment, à tous les points de vue, y compris par exemple sur Benzema. Comment penser qu'ils ne se sont pas parlé ? Bien sûr qu'ils se sont parlé. Et là, quand Deschamps, dans sa conférence de presse, dit « Oui, bien sûr que Zidane sera sélectionneur », qu'est-ce qu'il fait s'il prépare pas le terrain ? Donc voilà, c'est pourquoi vouloir les opposer, finalement ?
Surtout que le scénario, ce serait Zidane sélectionneur et peut-être Didier Deschamps président de la Fédé.
Mais c'est plus facile dans 2 ans.
C'est surtout, Jean-Philippe, cette espèce d'épée de Damoclès, c'est de savoir qu'on a déjà quelqu'un qui est dans l'antichambre, peu importe si son copain ou pas. C'était plutôt ça, la question et la pression, l'image de la pression qu'on se fait. Rémi, un petit mot, parce qu'après on va parler plutôt de Didier Deschamps.
On n'a pas besoin de dire qu'on les oppose. Là, la vérité nous impose de poser
tout le monde s'est rué sur ce débat
et d'imposer maintenant Zinedine Zidane. Je suis tout à fait contre Jean-Philippe Bouchard.
Mais il
qui
le,
fait comprendre
il
que,
le sera un
non,
jour.
Mais
Rémi,
c'est
lui, ça la question.
C'est lui le futur sélectionneur.
C'est lui qui décidera.
Franchement, Didier Deschamps, il n'a rien démontré depuis. Moi, je dis encore jusqu'à présent que si vous êtes incapable de battre le Portugal sans Cristiano Ronaldo à domicile pour une Coupe d'Europe, alors que le Portugal n'était pas aussi une grosse armada comme on peut le croire. Et quand on me dit qu'il va former un groupe, jusqu'à présent, Didier Deschamps dit qu'il n'a pas le temps de pouvoir former un groupe. Mais il lui faut 40 ans, il lui faut 50 ans, comme les chefs d'État africains. Moi, je dis, la solution d'Arsène Wenger ne doit pas aussi revenir dans l'équipe de France que donnons-lui le temps.
Rémi, il ne va pas mêler Arsène Wenger à ce débat, s'il vous plaît.
Trois ligues des champions, il a prouvé tout de suite. Il est arrivé au Real Madrid, il a su imposer. Et quand on lui a dit, on veut d'autres joueurs, il a dit, non, moi, je fonctionne comme ça, je mets tel. Il a pris certains petits jeunes tels que Lucas Vázquez qui se sont imposés finalement, tel qu'Asensio.
Mais il n'est pas sélectionnable en équipe de France.
Si tu es incapable
Rémi, on va passer justement.
Griezmann et consorts et tout ça.
Merci Rémi, parce que vous m'avez donné exactement le tempo de ce débat, puisque Jean-Philippe Bouchard vient de nous gratifier d'un livre qui est sorti hier, qui s'appelle « Dans la tête de Didier Deschamps ». Alors déjà, il fallait y rentrer. Lui, il y est entré. Jean-Philippe Bouchard, donc tous ses secrets d'entraîneur. Oui, ça j'imagine, mais vous avez suffisamment travaillé longtemps à l'équipe et à France Football. Vous parlez de ses secrets d'entraîneur. Il y a beaucoup de choses tactiques dans ce livre. On voit beaucoup de compositions d'équipe. Alors, c'est un des secrets et une des choses qu'il a dans sa botte, Didier Deschamps. Mais d'abord, parlez-moi du personnage. Vous vous insurgez notamment contre une chose, c'est quand on dit il est chanceux. Oui, il est chanceux, notamment au tirage au sort. Bon, mais on dit ça aussi parfois du Paris Saint-Germain, donc c'est pas le seul. Chanceux de perdre. En 6 ans, il fait quand même un quart de finale de Coupe du Monde et ensuite une finale perdue d'Euro, c'était en 2016.
Ouais, alors, et puis on disait déjà de Deschamps joueur qu'il était chanceux aussi, et finalement il a le plus gros palmarès du football français.
Le plus grand nombre de victoires
voilà,
avec
donc,
les
Bleus. C'est peut-être a-t-il à l'arrivée de la chance, mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il fait des choix. Et on va voir que Zidane fait un peu la même chose, c'est-à-dire que il fait des choix. En conséquence, vous ne verrez jamais Deschamps aller entraîner une équipe qui n'est pas en capacité de gagner un championnat ou enfin de gagner une compétition pour laquelle elle participe. Il ne choisit des équipes qu'en fonction
de leur potentiel,
et il préférera ne pas entraîner et ne pas jouer plutôt que de ne pas gagner. Et il y a une phrase dans le livre que je rappelle où il dit on joue pas au foot pour s'amuser.
On disait que c'était un jeu justement.
Il veut justement gagner. Oui, mais c'est une grande façon de faire. Il y a un peu deux façons de voir le foot. Il y a ceux qui le voient comme
un
métier et comme une façon de gagner. Et il y a ceux qui voient un jeu et la beauté du jeu. Et c'est un peu la querelle entre les romantiques comme Rémi et les pragmatiques comme Deschamps.
Voilà. Oui, sauf que les pragmatiques, effectivement, on pense à Mourinho. Ils ont des résultats, mais Didier Deschamps, mais des résultats. Rémi, je pense à Mourinho
parce que
c'est pas un beau spectacle. Mais on peut, on dit Rémi, Didier Deschamps,
bien envoyé,
on dit Didier Deschamps parfois frileux sur il a ses hommes, il a son groupe malgré tout, il l'a rénové ce groupe. Donc
voilà, la liste qu'il a livrée le prouve. Les stats le prouvent, et j'en donne beaucoup dans le livre. Les stats prouvent qu'il est le sélectionneur qui a le plus renouvelé ses équipes et ses groupes. Donc c'est concret.
Et ses schémas tactiques. On se souvient pendant l'Euro.
Voilà, il est figé sur aucun schéma. Il s'adapte à l'adversaire. Voilà, c'était la spécificité du jeu à la nantaise. Le jeu à la nantaise, c'était de s'adapter à l'adversaire. Il a été formé à Nantes et il a été formé à la Juve par Lippi et le réalisme italien. Voilà, c'est ça ses écoles. Et donc c'est un pragmatique. Il a aucune idéologie. Il a aucune idée préconçue. Il va prendre ce qu'il juge le meilleur, le plus efficace. C'est tout.
La seule chose que je vais trouver à vous redire, donc Jean-Philippe Bouchard, je connais que, par exemple, le lion, il est carnivore, l'éléphant, il peut être herbivore. Alors là, l'animal le plus pragmatique pour vous, qu'on ne connaît pas s'il est un animal, s'il est un oiseau, c'est chauve-souris. Est-ce que vraiment chauve-souris, c'est quelque chose de véritable au monde? Rien du tout. Donc pour moi, Didier Deschamps, vous venez de le mettre dans la catégorie des chauves-souris.
C'est Batman était une chauve-souris, hein, il a fait des exploits.
Donc, et lorsque j'essaie de regarder un certain nombre de choses, vous dites qu'il renouvelle les effectifs. C'est justement ça l'instabilité, parce que là, il n'y a pas ce qu'on peut dire, une complicité, il n'y a pas...
Rémi, voilà. Je suis pas sûr de comprendre
Les Chamberlain sont où? Aujourd'hui, on apprend que ce sera un Zonzi, après ce sera ceci. Le problème, c'est que il ne va pas au bout avec ces gens. Comme moi, je vois...
Quand il va en finale, il va pas loin quand même du bout. Hein.
Écoutez, si vous me dites... Ouais. Attendez, les autres entraîneurs français ont remporté l'Euro, monsieur.
Il y en a deux. Il y a Hidalgo. Hidalgo en 1984 et Roger Lemaire en 2000.
Jacquet a même remporté la Coupe du Monde.
On va arrêter. Mais Rémi Ngono.
Jacquet a remporté la Coupe du Monde.
Qui était le capitaine de l'équipe de France qui rencontre l'Euro en 2000?
Rémi. Laissez Xavier parler.
Qui était le capitaine de l'équipe de France qui remporte l'Euro 2000 aux Pays-Bas, à Rotterdam? Qui était ce capitaine?
Mais tu es là pour me poser des questions.
Mais je rappelle juste. C'était Didier Deschamps.
Je vous demande de vous arrêter.
C'était Didier Deschamps.
Et déjà, il me pose des questions.
Et déjà à cette époque, comme à la Coupe du Monde 98, le relais de l'entraîneur qui était Aimé Jacquet, c'était Deschamps. Parfois même, on disait que c'était Deschamps qui faisait l'équipe. Il y a même un joueur qui récemment a déclaré, on le connaît bien. Alors c'était du off, c'est passé dans une émission d'enquête sur France Télévisions. David Ginola, pour pas le citer, qui a décidé que c'était Deschamps qui l'avait viré de l'équipe de France. Donc, dire que Deschamps n'a rien gagné, c'est lui qui a amené en grande partie l'équipe de France à la victoire à la Coupe du Monde 98 et à la victoire à l'Euro 2000.
Et c'est le capitaine en 93 de l'OM.
Donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé.
C'est pas possible. Vous n'allez pas me citer un joueur comme étant l'entraîneur, mais c'est pas possible. Cela veut dire que c'est Ronaldo qui a amené le Portugal en tant qu'entraîneur.
À part que Ronaldo est resté 10 minutes sur le terrain, mais bon, ça c'est autre chose.
Et Zinedine, et vous allez me dire Rémi, que maintenant c'est Rémi, guider les gens.
On a compris, vous n'êtes pas d'accord. Jean-Philippe Bouchard, juste avant de terminer sur le sujet de Didier Deschamps, qu'est-ce que finalement, est-ce que vous pensez que toute cette science, toute cette volonté aussi de gagner ce côté gagneur et qu'il a comme ses champions du monde de 98 d'une façon générale, est-ce que ça se verra en Russie?
Ah, je pense qu'il a construit son groupe là-dessus. C'est-à-dire, si on regarde individuellement tous les joueurs qu'il a choisis, tous, peut-être à l'exception de Mbappé, parce que lui, c'est vraiment un phénomène et il est très très jeune, mais tous ont des parcours un peu chaotiques. C'est-à-dire que tous ont dû se relever de blessures, ont changé de club parce qu'ils jouaient plus pour s'imposer ailleurs, hein. Par exemple, je sais que ça va faire réagir, mais c'est le cas de Giroud. Giroud qui ne jouait plus à Arsenal est transféré à Chelsea, qui est pas un petit club, et il s'impose à Chelsea. Giroud a des meilleurs stats de la tête que Ronaldo. C'est pas rien. Voilà. Donc c'est, si
pardon,
vous voulez.
Chut. Donc, ne l'énervez pas.
Pardon.
Donc, si vous.
Les stats de la tête que Ronaldo, il a marqué où?
S'il vous plaît.
C'est, en équipe de France et en équipe nationale, Giroud est bien meilleur. Que Ronaldo.
Vous connaissez le nombre de buts de Ronaldo en équipe nationale?
S'il vous plaît, on termine sur des joueurs.
Tous les joueurs qu'il a choisis sont des joueurs qui se sont imposés après des difficultés. Ce sont des joueurs qui se battent, ce sont des gagneurs et ce sont des joueurs qui s'intègrent dans un groupe. Voilà, ça c'est super important pour lui, c'est de constituer un groupe. Et là-dessus, il suit le modèle de Jacquet, exactement. C'est-à-dire qu'il considère que le groupe est plus fort qu'une somme d'individualités.
Et c'est souvent, on a vu dans d'autres équipes, c'est ce qu'il a pu les faire gagner en Coupe du Monde. Voilà ce livre, Dans la tête de Didier Deschamps, tous ses secrets d'entraîneur chez Solar.
Dans la tête de Giroud.
Et tout de suite, nous allons bien prendre la direction de l'Est de l'Europe. Non. Notre rendez-vous avec l'histoire du football russe et soviétique, objet d'un livre de Régis Janté, correspondant de RFI dans le Caucase. Ce livre s'appelle « Football, le ballon rond de Staline à Poutine ». Et il viendra nous le présenter à la veille du coup d'envoi, Régis Janté dans Radio Foot. Mais reprenons donc le fil de l'histoire. Avec les bolcheviks arrivés au pouvoir par la révolution de 1917, Régis Janté, Lénine et ses amis n'appréciaient guère le football, n'est-ce pas ?
Pour eux, le football et le sport moderne en général étaient des activités bourgeoises, nées en Angleterre et porteurs des valeurs de celle-ci, la victoire, les records. Et les dirigeants rouges, au début du moins, ont tenté de promouvoir une autre vision du sport en phase avec leur idéologie. Il y a même des théoriciens qui ont imaginé que l'on pourrait juger du vainqueur d'une partie de football autrement que par le score, sur des critères esthétiques par exemple. Alors cela ne s'est jamais produit, mais en revanche, le pouvoir bolchevique a mis en œuvre énormément de moyens pour établir dans la vie des homo pas encore soviéticus la physkultur, la culture physique, qui consistait, disons, à avoir un esprit sain idéologiquement, dans un corps sain.
Mais alors finalement, les bolcheviks jouaient-ils différemment au football ?
Ils avaient de la peine à concurrencer, disons, les footballeurs de l'Europe, alors que ça va devenir le problème et que ça va embarrasser les dirigeants du sport rouge. Dans les années 1930, pour prouver la supériorité de leur modèle politique, ils ont voulu se mesurer aux équipes européennes, tchécoslovaques, anglaises ou françaises, comme le Racing Club de Paris, le 1er janvier 1936, par exemple. Alors ce jour-là, au Parc des Princes, pour éviter l'humiliation, on avait pris les meilleurs joueurs du Spartak et du Dynamo de Moscou, et le résultat a été honorable, défaite de 1, mais chacun a compris alors que pour franchir un palier et battre des équipes comme le Racing ou Arsenal en Angleterre, eh bien, il fallait changer de méthode de jeu, passer au schéma dit WM, qui faisait alors le succès des clubs capitalistes.
Les joueurs, justement, étaient-ils encore des amateurs ou déjà des professionnels acquis à la cause révolutionnaire ?
Officiellement, non, ils n'étaient pas professionnels, parce que le prolétaire doit travailler, mais en réalité, oui, il l'était, surtout lorsqu'il s'est agi de se mesurer aux équipes européennes. En réalité, les joueurs étaient professionnels très tôt dans l'histoire. Officiellement, par exemple, les joueurs du Spartak de Moscou travaillaient dans des magasins où ils ne mettaient guère les pieds, en réalité, voire jamais. Ceux du Dynamo de Moscou ou de Tbilissi étaient des officiers du NKVD, de la police politique, qui étaient en fait leurs sponsors.
Merci beaucoup Régis et à lundi pour la suite de cette histoire du football russe. Après l'Est de l'Europe, une escale en Afrique et puis aussi du côté du Luxembourg, puisque le Sénégal est entré en piste hier de ses matchs test, comme on dit. C'était au Luxembourg et le score au tableau d'affichage entre Sénégalais et Luxembourgeois est resté vierge, 0-0. Mais le sélectionneur des Lions de la Teranga, vous allez l'entendre, Aliou Cissé, se dit plutôt satisfait du test.
On est en début de stage, c'était important, si vous voulez, de donner du temps de jeu à tout le monde. On a su montrer quand même que le Sénégal a encore le potentiel. Il nous a manqué aussi Sadio Mané et puis un garçon comme Diao Keita Baldé qu'on a essayé d'aménager, ne pas non plus tirer trop sur lui. Donc c'est ce qui fait qu'on n'a pas pu jouer vraiment avec l'équipe type. Mais le potentiel est là, c'est un groupe qui est homogène. Un groupe où on peut changer beaucoup de joueurs, on peut jouer dans d'autres systèmes. Donc la qualité est là, on le sait. Maintenant, il faut juste perfectionner certains détails dans le jeu.
Aliou Cissé au micro de Babacar Fall. Alors, Rémi, ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, en deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de changements, hein, comme font les entraîneurs. Exactement. Ce que font les entraîneurs, en général, au premier match, pour impliquer un peu tout le monde. Mais selon vous, quels sont les atouts de cette équipe du Sénégal ? Est-ce que c'est Sadio Mané qu'on a vu brillant lors de la finale contre le Real ?
Oui, c'est Sadio Mané, mais moi, je suis un peu inquiet parce que c'est comme si c'était le premier match et ce n'est pas le premier match. Le Sénégal a quand même joué contre l'Ouzbékistan. C'est vrai qu'on a toujours tourné. Ils ont joué contre la Bosnie et ça n'a pas été ça.
Ouais, alors, il y a la Croatie et la Corée du Sud qui les attendaient ensuite.
Et puis, le problème, c'est que pour une équipe comme le Sénégal, aujourd'hui, on me parle de Sadio Mané. Oui, mais Attendez, j'ai regardé avant cela le match de la Tunisie qui manquait d'avant-centre et tout et tout. Ils ont marqué deux buts au Portugal. Donc moi, je suis vraiment inquiet par rapport à cette équipe du Sénégal depuis qu'ils ont commencé ces matchs de préparation, parce que quand même, il est parti avec quatre attaquants. Il ne va pas uniquement aujourd'hui nous dire que nous sommes en train de faire ceci, nous sommes en train de faire et qu'est-ce de ce quoi. Il avait Sako, il avait tout et tout. Donc pour moi, pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup peur par rapport au Sénégal, parce que le potentiel que le Sénégal a, quelle que soit la formation qu'il peut mettre et qu'il ne parvienne pas à trouver des buts depuis qu'il a commencé.
Ça me souvient que les Français,
attendez, parce que moi,
les Français s'étaient heurtés un peu.
C'est ce que j'allais dire. Il faut pas inquiéter plus que ça les supporters des Lions de la Teranga, parce que on peut rappeler qu'en éliminatoire de cette Coupe du Monde, l'équipe de France à Toulouse a fait 0-0 contre le Luxembourg.
Donc c'est la grosse équipe en ce moment.
Non, mais ça veut dire que c'est une équipe qui peut poser des problèmes aux formations qui vont de l'avant, qui jouent l'offensive. C'est le cas du Sénégal.
Et l'Ouzbékistan
qui a raté, qui était privé quand même de Sadio Mané, son joueur numéro 1, cette formation, elle est en rodage, elle a encore deux matchs de préparation avant le début de la Coupe du Monde, ils vont jouer contre la Croatie,
ils vont jouer contre la Corée du Sud,
voilà. Donc laissez-les se mettre en jambes. L'équipe de France a rencontré une équipe d'Irlande l'autre jour qui était pas terrible. Elle a gagné 2-0, mais voilà, c'était
mais
vraiment un
match. 40 minutes, elle trouvait pas la faille.
Oui, ça a été une. Oui,
elle
ça
avait
a
90% de possession de balle, mais elle trouvait pas la faille.
C'était une mise en jambe, et là, je pense qu'on est un peu dans la même situation.
Le Sénégal, alors évidemment, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas participé.
16.
On est au lendemain. Oui, 16 ans.
C'est normal, Rémi, les groupes du monde, c'est tous les 4 ans.
Ils sont qualifiés au bout de 15 ans d'attente, et effectivement, ça fait 16 ans. C'était en 2002, on se souvient de ce 31 mai où ils avaient marqué ce but à la France. Il y a plein de choses, mais la vérité du terrain est plus compliquée, Jean-Philippe.
Oui, parce qu'en 2002, si on se souvient bien, c'est probablement l'équipe de France la plus forte sur le papier à l'époque.
Sur le papier, ils étaient champions du monde.
Et en matière de tirage au sort, quand il y a eu le tirage au sort de la Coupe du Monde en Corée au Japon, tout le monde se frottait les mains. Donc voilà, c'est le football. Et là, on voit bien 2002. Et là, pour nous rappeler quand même que quand il n'y a pas de chef à la manœuvre, quand il n'y a pas de joueurs relais sur le terrain, où les joueurs sont livrés un peu à eux-mêmes, comme c'était le cas, eh ben voilà, il ne suffit pas d'avoir les meilleurs buteurs, les meilleurs défenseurs pour gagner.
Eh bien, il a du temps encore, Aliou Cissé, et nous y reviendrons à ces matchs amicaux. Tout de suite, les cartons.
Carton jaune,
un carton, là. Un carton jaune.
Oulala, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Honneur au plus jeune d'entre nous, Bastien Roch, à vous pour votre carton. Vous avez vu, ils sont très bavards, hein, ils ne laissent pas toujours parler. Quel est votre carton et quelle est sa couleur surtout?
J'ai décidé de commencer sur une note positive. On va partir sur un carton vert pour le Togo, plus précisément les espoirs togolais, les U21, qui font leur première participation au tournoi de Toulon et qui abordaient cette compétition pas forcément favoris. Ils sont amenés par Jean-Paul Abalo et sous la surveillance rapprochée de Claude Leroy, le sélectionneur de l'équipe A. Et ma foi, pour l'instant, c'est plutôt pas trop mal. Ils commencent par un nul face à l'Écosse, une victoire face à la Corée du Sud, et voilà, premier de leur poule. Donc dernier adversaire, la France, c'est demain samedi 15h30 en temps universel. Donc pourquoi pas, peut-être la grande surprise de ce tournoi de Toulon 2018.
Je suis sûr que vous êtes fait plein d'amis du côté de Lomé. Merci beaucoup Bastien. Jean-Philippe.
Alors moi je vais mettre un avertissement, je sais pas si c'est un carton jaune préventif.
Oui, théoriquement c'est jaune.
Un carton jaune préventif au président de club de Ligue 1, parce que cette semaine il y a eu donc les droits télé et on a vu le milliard qu'ils attendaient, et cette situation s'est déjà produite dans l'histoire du foot français. C'était il y a un petit peu moins de 20 ans quand il y a eu un concurrent à Canal+ qui s'appelait TPS et les droits télé avaient explosé, et à ce moment-là les présidents de club de D1 à l'époque ont eu beaucoup d'argent et ont fait conneries et ont acheté des joueurs très chers n'importe comment.
Xavier ?
Moi, ce sera un carton vert pour les œuvres qui ont été récompensées par la Fondation du football cette semaine, parce que les clubs de football n'ont pas qu'un rôle de distraction, ils ont aussi un rôle social, et donc notamment des clubs comme Nice et comme Strasbourg ont été récompensés pour les actions qu'ils mènent, par exemple pour favoriser le public féminin ou pour aider les jeunes.
Rémi, la couleur de votre carton?
Benny Dingle de ma page Facebook Rémi Gon Officiel, jaune directement, vert plutôt, à Zinedine Zidane qui a su partir avec trois Ligues des Champions au lieu de se faire virer, comme le dit un proverbe africain. Si tu es du miel, on t'avale. Si tu es amer, on te crache.
Je croyais que vous aviez un proverbe africain, vous aussi, Xavier Barré, pour votre ami Rémy, non?
Je l'ai plus en tête.
Vous l'avez plus? Non. Alors, la semaine prochaine.
Ça reviendra.
Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui dans ce Café des Sports. Merci aussi à David Finzel, à Pierre Guérin et évidemment à Guillaume Ploquin. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bon week-end à tous et à lundi.